à la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.
À la découverte du ciel, à la découverte de l'univers, les amis, bonjour, oui, c'est Alain. Aujourd'hui, notre émission d'astronomie va être consacré à un personnage incontournable de l'histoire de l'astronomie, je dirais même de l'histoire de l'humanité. Ce personnage, nous allons le rencontrer avec notre invité après notre page d'actualité. L'actualité aujourd'hui, d'abord, on vient d'identifier le trou noir le plus lointain connu. Il est à 13,1 milliards d'années-lumière, ce qui lui donne un âge d'environ 600 millions d'années. Le hic, parce qu'il y a un hic, c'est que ce trou noir est énorme. Il fait 800 millions de fois la masse du Soleil. 800 millions de fois la masse du Soleil. Et ça, eh bien, aucune théorie actuellement ne prévoit la formation d'un objet aussi massif en aussi peu de temps. Alors, ça veut dire que ça promet du boulot pour les théoriciens qui vont devoir revoir leur théorie. Autre actualité, Voyageur 1. Vous savez, c'est la petite sonde qui a été lancée en 1977, ça fait 40 ans. Elle fonctionne encore, elle est actuellement à 20 milliards de kilomètres de la Terre. Elle vient d'effectuer une manœuvre pour réorienter son antenne vers la Terre en utilisant un moteur qui n'avait pas fonctionné depuis 37 ans. Et comme ça a bien marché, la NASA va tenter la même manœuvre avec Voyager 2, qui est seulement à 17 milliards de kilomètres de la Terre. Autre actualité, le télescope américano-japonais de 30 mètres de diamètre. Il va finalement être construit à Hawaï, sur le Mauna Kea, là où sont tous les autres télescopes, après pas mal de batailles juridiques. Oui, parce que ce Mauna Kea, qui est à 4200 mètres, c'est une montagne sacrée pour les Hawaïens. Et ils voient d'un très mauvais œil qu'on installe des télescopes là-haut. On avait même envisagé de l'installer aux Canaries, ce télescope de 30 mètres de diamètre. Mais finalement, il y a eu un accord, peut-être moyennant compensation, et le permis de construire va être accordé. Encore, le 15 février, éclipse de soleil. Mais ça sera une éclipse uniquement, qui sera une éclipse partielle, et elle sera uniquement visible en Amérique du Sud. Alors, pas d'excitation en Béarn, les amis. Voilà pour l'actualité aujourd'hui. Bon, les amis, c'est le moment de rejoindre notre invité. Et notre invité aujourd'hui, c'est Jean-Christophe Sanchez. Jean-Christophe, bonjour.
Bonjour.
Alors, Jean-Christophe Sanchez, oh, vous le connaissez, il intervient souvent à notre antenne. Vous savez qu'il est, je vous rappelle qu'il est chercheur en histoire et passionné d'astronomie. Alors forcément, l'histoire de l'astronomie, on peut dire que ça lui parle. Hors antenne, Jean-Christophe, tu m'as dit qu'on allait parler de révolution. Alors donc, on est en 1789.
Ah non, pas du tout. Il y a eu plusieurs révolutions. Ah bon. La révolution dont on va parler est beaucoup plus ancienne. Elle remonte il y a 500 ans.
Oh là là. Alors, de quoi s'agit-il ?
De la révolution copernicienne, de la révolution des cieux.
Copernicienne, de la révolution de Copernic, alors.
Exactement. C'est l'histoire, donc, de l'astronome polonais Nicolas Copernic. Et on va voir comment Nicolas Copernic a complètement bouleversé les orbes célestes et révolutionné la pensée occidentale du cosmos.
Oui, effectivement, c'était un grand bouleversement. Mais bon, on est en quelle année, là ?
Alors, Copernic, il naît en 1473.
Donc, est-ce que tu peux nous reconstituer un peu le contexte de l'époque en France, qu'est-ce qui se passe dans l'Europe et...
On est dans un siècle complètement bouillonnant. C'est le 15e siècle, le Quattrocento.
En Italie.
Exactement, en Italie. C'est le début de la Renaissance. C'est le moment où on a les grandes découvertes, où les Portugais partent avec Bartolomé Dias jusqu'au Cap de Bonne-Espérance, où Vasco de Gama va aller découvrir les Andes en contournant l'Afrique, où Gutenberg va mettre au point l'imprimerie. On est dans un siècle de révolution profonde que l'on connaît par la suite au siècle suivant, au 16e siècle, siècle où va mourir donc Copernic, comme étant l'humanisme et la Renaissance.
La Renaissance en France, on peut la situer, le début de la Renaissance c'était 1515, quoi, en gros.
Voilà, la date donc de la fameuse bataille de Marignan, et on est dans cette période où la guerre de Cent Ans s'est terminée.
Oui, oui, il y avait la guerre de 100 ans. Et c'est, qui c'était à l'époque, le roi de France?
Alors, à l'époque où Copernic est né, c'était Louis XI, qui va mourir en 1483. On est vraiment avec les derniers rois de la guerre de 100 ans.
Et en fait, c'est la fin du Moyen-Âge.
C'est la fin du Moyen-Âge et le début d'État moderne.
D'accord. Et en Italie, cette révolution, non pas cette révolution, mais cette renaissance, elle a commencé un peu avant.
Exactement. Elle est commencée donc avec le Quattrocento, c'est le début de la construction des monuments que l'on connaît, la Renaissance italienne. C'est la Renaissance florentine qui débute, ce sont les premiers tableaux avec une perspective. C'est le début aussi d'une science moderne, celle que l'on connaît avec les mathématiques.
Les arts, mais aussi les sciences, quoi. La Renaissance, c'est un peu de tout azimut, en quelque
sorte. De tous les arts, de toutes les sciences, de toutes les techniques.
On remet tout en cause.
Tout est remis en cause, tout est bouleversé, et Copernic, ce qui va remettre en cause, c'est justement les conceptions du cosmos qui est héritée du Moyen-Âge.
Donc, Jean-Christophe, c'est à cette époque que naît Nicolas Copernic.
Absolument. Il naît, pour être exact, le 19 février 1473. Il naît très loin d'ici. Il naît en Pologne, en Silésie, dans une ville qui s'appelle Toruń.
Une ville qui existe encore ?
Absolument. D'ailleurs, on peut voir dans cette ville une maison. Alors, bon, c'est pas la maison d'origine, mais la maison où est né donc Nicolas Copernic. C'est une ville moyenne de Pologne qui se trouve sur la Vistule. Et c'est surtout une ville qui se trouve en Silésie. C'est une région minière. Et le nom de Copernic viendrait de Cooper, le cuivre. Ça serait une famille soit de mineurs, soit d'artisans du cuivre, mais c'est une famille dont le nom est lié donc à ce métal.
Que devient notre ami Copernic, alors, dans sa prime enfance?
Alors, dans sa prime enfance, il a un frère et une sœur, un frère aîné et une sœur cadette, mais en 1483, il va lui arriver un malheur familial, c'est le décès du père.
Et il avait 10 ans.
Il avait à peine 10 ans. Alors, sa maman était toujours en vie, elle va décéder quelques années plus tard, et Nicolas, Lucas et Barbara vont être adoptés par l'oncle maternel, l'oncle Lucas lui aussi, qui est évêque de Varmie.
La Varmie, c'est aussi en Pologne.
La Varmie, c'est une région de Pologne qui se trouve au bord de la mer Baltique, au nord de la Pologne, entre les actuels pays baltes et le nord de la Pologne.
Donc c'est son oncle qui va subvenir à ses besoins pour faire ses études.
Oui, parce qu'à l'époque aussi, dans ce Quattrocento, c'est la naissance de la Pologne.
Donc c'est son oncle qui va subvenir à ses besoins pour faire ses études.
Oui, parce qu'à l'époque aussi, dans ce Quattrocento, c'est la naissance des grandes universités. Les grandes universités européennes vont apparaître donc à la fin du Quattrocento, à la fin du XVe siècle. Et en Pologne, la grande université, c'est l'université de Cracovie.
Cracovie.
Cracovie va devenir la deuxième ville dans l'histoire de Copernic. C'est là où il va commencer ses études.
C'était la capitale de la Pologne, Cracovie.
Absolument, c'était à l'époque la capitale de la Pologne. C'était la ville royale et c'était là donc que les souverains de Pologne avaient fondé cette université. Et de nos jours, il existe toujours une reconstitution de la chambre d'étudiants dans laquelle aurait donc séjourné Nicolas Copernic, qui est une grande figure avec Marie Curie de la science polonaise.
Oui, si vous visitez les amis, si vous avez l'occasion d'aller à Cracovie, il faut visiter le musée. Il y a une pièce qui est remplie d'instruments de l'époque. Ça doit être des astrolabes, je ne suis pas très qualifié pour expliquer. Mais enfin, il y avait toutes ces choses-là.
Oui, alors là on retrouve, parce qu'il faut se mettre quand même dans le contexte de l'époque, les lunettes astronomiques, les télescopes n'existaient pas. Il faut attendre le XVIIe siècle avec Galilée et Newton. Et à l'époque, ce que les astronomes avaient comme instrument pour faire des observations, c'était donc les astrolabes, les turquets, tous les instruments qui permettaient non pas d'observer à l'œil nu directement les planètes, comme on le fait maintenant avec l'astronomie optique, mais qui permettaient à l'époque de faire des mesures d'angle, des mesures de position.
C'était la principale activité des astronomes de l'époque.
Les astronomes de l'époque, la seule activité, on va dire, scientifique qu'ils pouvaient faire du point de vue de l'observation, c'était mesurer les positions des corps célestes sur la voûte du ciel.
Et de constituer des catalogues d'étoiles.
Constituer des catalogues d'étoiles, nommer les étoiles, observer les étoiles, et observer aussi le mouvement de ces étoiles et le mouvement des fameuses Astrea, les planètes.
C'est ça. Donc c'est l'oncle de Nicolas qui va s'occuper de ses neveux et qui va, comme il est évêque, peut-être avoir envie de le destiner à une carrière ecclésiastique.
Pour Nicolas Copernic, effectivement, l'avenir est tout tracé, c'est d'embrasser la carrière ecclésiastique et de succéder à son oncle, peut-être pas sur le trône épiscopal, mais néanmoins succéda à son oncle dans les grandes affaires ecclésiastiques du diocèse de Varmie.
Donc, à cette époque-là, Nicolas Copernic entame un cycle d'études qui doit l'amener à devenir
un homme d'église.
Un homme d'église.
Et alors, il commence à Cracovie, il va commencer ses études à Cracovie, mais on va voir que ses études de Nicolas Copernic sont très erratiques. Après avoir entamé ses études à Cracovie, il va être envoyé, il va partir en Italie. C'est en Italie que se trouvent les grandes universités de l'époque. Et on va le retrouver dans trois villes principalement, Bologne, Rome et Ferrare.
Et alors là-bas, combien de temps il va passer en Italie? Qu'est-ce qu'il va faire là-bas?
Alors il va y rester jusqu'en 1503, où il va revenir en Pologne. Et ce qu'il va faire à cette époque-là, c'est étudier d'une part pour devenir donc un homme d'église le droit canon.
Oui, il faut des diplômes. En
fait. Il faut des diplômes. Mais le diplôme qu'il va obtenir, et ça c'est intéressant, c'est qu'il va obtenir un diplôme de médecine.
Ah tiens.
Et oui, parce qu'à l'époque, le médecin était aussi un astrologue. Si c'est un astrologue, il connaît les planètes. Et s'il connaît les planètes, il doit les observer.
Alors, on avait des médecins astrologues à l'époque.
Exactement. Oui, on soignait aussi avec les astres, en faisant les horoscopes. Absolument.
Ah ben je ne savais pas, là, franchement. Donc, il étudiait la médecine. Il va devenir médecin, alors.
Alors, effectivement, il va avoir, par la suite, une fonction ecclésiastique de chanoine, mais il va être médecin. Et pendant très longtemps, les activités qui vont lui donner des revenus, c'est l'activité de chanoine, parce qu'il va recevoir des rentes liées à cette charge, et les activités de médecin. Et on a encore conservé, il existe des ordonnances réalisées par Nicolas Copernic pour soigner les grands qui venaient le consulter, et notamment son oncle Lucas.
À l'époque, il y avait déjà des ordonnances.
Il y avait déjà des ordonnances. Alors bon, ce n'est pas les ordonnances de notre époque où on a des listes de médicaments reconnus et dont on sait quand même les valeurs pour soigner. On a des recettes, on va dire, de cuisine, de différents ingrédients, de différents minéraux qu'il fallait absorber pour être soigné.
Alors ensuite, donc il continue quand même les études d'ecclésiastique.
Et il continue les études ecclésiastiques, bien évidemment, surtout que son oncle, pendant qu'il est encore en Italie, va le faire nommer chanoine et il va faire des allers-retours pour assurer ses fonctions donc de chanoine de l'évêché de Varmie et terminer ses études.
Donc il était nommé chanoine sans avoir les diplômes.
Oui, mais je crois que l'oncle étant évêque, il pouvait s'émanciper de quelques...
Oui, oui. Donc il faut quand même qu'il passe ses diplômes à un moment donné.
Oui, alors au bout d'un certain moment, le chapitre de la cathédrale commence à demander quand même que les choses soient faites dans les règles de l'art. Et il va devoir donc obtenir au moins un doctorat. Et ça va être le doctorat qu'il va obtenir de médecine et de droit canon à Ferrare en 1503. Alors pour la petite histoire, à Ferrare, obtenir des diplômes n'est pas si difficile que ça. Parce que pour obtenir des diplômes, on peut donc payer ce diplôme.
Ah oui, effectivement, c'était... Les pratiques de l'époque, hein. Bon, mais bon. Alors donc, notre ami Copernic, il a son diplôme, il est chanoine officiellement. Qu'est-ce que c'est exactement un chanoine?
Un chanoine, c'est un homme d'église qui va s'occuper de la gestion du diocèse, principalement. On n'a pas trouvé de traces de Copernic en tant que théologien. Par contre, ce que l'on sait, c'est que Copernic, par ses études et par ses connaissances, notamment mathématiques, va être, on va dire, un peu le ministre des Finances du diocèse de Varmie.
Mais Jean-Christophe, là, il est très occupé par ses études ecclésiastiques, canoniques, et aussi par la médecine. Mais quand est-ce qu'il s'intéresse vraiment à l'astronomie, notre ami Nicolas?
Alors, notre ami Nicolas, il n'a pas trop le choix. Parce qu'à l'époque, il y avait un cycle qu'on appelait le quadrivium.
Comment?
Quadrivium. Quatre années.
Quatre années.
D'accord. Pendant ces quatre années, il y avait quatre disciplines qui étaient étudiées, obligatoirement, et parmi ces disciplines, qu'est-ce qu'on avait? On avait l'astronomie. Donc Copernic, comme tous les étudiants de l'époque dans toutes les universités, devait étudier l'astronomie.
Ah, c'était à l'époque une matière importante.
C'est une matière importante et obligatoire.
Au même titre que les mathématiques, le latin, je suppose.
Et... Le latin, la musique aussi faisait partie. Donc c'était vraiment, voilà, ça faisait partie de la formation de tous les étudiants, tous les universitaires, du Quattrocento jusqu'à la Révolution française.
Donc, ce sont en quelque sorte ses premiers pas dans le monde de l'astronomie.
Alors, pour être exact, le premier pas de Copernic en astronomie, et c'est une source que l'on a conservée, c'est le 9 mars 1497. Ce jour-là, le 9 mars 1497, l'étoile Aldébaran va être cachée par la Lune. C'est ce qu'on appelle une occultation. Et on a le témoignage de Copernic de cette observation qu'il va faire avec un astronome italien qui s'appelle Domenico Maria Novara. C'est un professeur de l'université de Bologne, où se trouve Copernic, mais c'est surtout un professeur qui loge les étudiants.
Pour arrondir ses fins de mois.
Mais aussi, comme c'est un locataire de cet astronome, Copernic va être initié à l'astronomie par Novara.
C'est une chance ou le hasard, ça?
Je pense que c'est à la fois une chance et un fruit du hasard. Pourquoi a-t-il choisi Novara pour le loger? Ça, personne ne saura. C'est une chance, parce que si cet événement n'avait pas eu lieu, alors tout ce qui va se passer par la suite n'aurait jamais été possible.
Et oui, il va s'en passer des choses. Alors à l'époque, comment on se représente la vision de l'univers, du cosmos?
Ce qu'apprend Nicolas Copernic, c'est que le cosmos, c'est le cosmos de Ptolémée, c'est un cosmos géocentrique.
Alors, Ptolémée, c'était 2 siècles après Jésus-Christ. Ça fait pratiquement 1000 ans qu'on a cette idée-là.
Exactement.
Immuable.
Ça fait 1000 ans que les idées de Copernic, les idées d'Aristote, sont la seule astronomie connue et enseignée jusqu'à Copernic. Alors, c'est une astronomie où le monde est donc centré, le cosmos est centré sur la Terre, qui est l'astre le plus important. Autour de cet astre tourne le Soleil, tourne la Lune, tourne les planètes et tourne les étoiles.
La Terre est au centre de l'univers, les amis.
La Terre est au centre de l'univers, mais là aussi, chance et hasard, l'astronome qui loge Copernic appartient à une philosophie qu'on appelle le néoplatonisme. Et dans ce néoplatonisme, Novara pense que ce n'est pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais c'est le Soleil. Est-ce que dans leurs discussions, lors de leurs observations, notamment celle d'Aldébaran, ils en ont parlé? Est-ce que Novara l'a initié à cette autre conception du cosmos? C'est fort probable.
Oui, il a en quelque sorte semé une petite graine, quoi.
Il a semé une petite graine qui va prendre un peu de temps à ne germer, mais qui va germer assez vite.
Mais cette idée, elle était déjà à l'époque de Pythagore. Pythagore, c'est 5 siècles avant Jésus-Christ. On avait déjà cette idée en tête.
Absolument. Dès l'Antiquité et avant Ptolémée, des astronomes avaient émis l'hypothèse, l'idée, que ce n'était pas la Terre qui est au centre de l'univers, mais que c'était le Soleil.
Et que la Terre tournait autour du Soleil.
Et que la Terre était une planète comme les autres qui tournent.
Et cette idée avait été perdue.
Ben, disons que cette idée n'a pas été totalement perdue, parce que Copernic va les redécouvrir. Et nous sommes au moment du Quattrocento. On est en train de redécouvrir tous les écrits de l'Antiquité. C'est l'époque où, en 1453, les Turcs prennent Constantinople. Mais avant de prendre Constantinople, qu'est-ce qui se passe? Tous les écrits antiques, tous les écrits anciens vont être rapatriés en Occident. C'est le début de la Renaissance et de l'humanisme.
Et c'est vrai, c'est vraiment le vrai départ de la Renaissance.
Ah, nous sommes complètement au départ de la Renaissance.
Donc, l'ami Copernic, il commence à faire des observations.
Il commence à faire des observations, à accumuler des connaissances, à faire des lectures et à se poser des questions. Est-ce que le système de Ptolémée, le système géocentrique, c'est le système du cosmos?
Et pourtant, ce système permet de prédire les événements, de prévoir plutôt les événements qui vont se produire, les occultations, ces choses-là. On a un modèle qui rend bien compte de ce qui se passe dans les cieux.
Alors c'est le paradoxe, et c'est le problème qui va se poser avec le système de Copernic, c'est qu'effectivement, le modèle de Ptolémée, très compliqué, parce qu'il faut s'imaginer ça comme un système d'engrenage, d'épicycle, des quoi.
Oui, oui.
Enfin, peu importe, c'est complexe. Mais ce système complexe, sur un postulat faux, c'est-à-dire la Terre au centre du système solaire, donc ce système complexe sur un postulat erroné, permet néanmoins de calculer de manière très précise les éclipses, les occultations et différentes positions des astres sur la voûte céleste.
Alors les amis, on va voir dans la suite, dans la deuxième partie de l'émission, la suite de cette révolution, la suite des aventures de l'astronome Nicolas Copernic, mais pas qu'astronome, vous verrez. Allez, à tout de suite.
Feel the magic in the air, aye, 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 levez les mains en l'air, allez, 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 feel the magic in the air.
Si vous nous rejoignez sur 95.10, les amis, bienvenue. Aujourd'hui, notre émission d'astronomie est consacrée à Nicolas Copernic avec notre invité Jean-Christophe Sanchez. Alors, dans la première partie de l'émission, on a vu la genèse de Nicolas Copernic, on a vu l'époque, ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc, on arrive maintenant où il a ses diplômes de chanoine et Jean-Christophe, il revient en Pologne, notre ami Nicolas.
On va le retrouver effectivement en Pologne, au bord de la mer Baltique, dans une ville qui s'appelle Frombork.
Frombork, qui existe encore
Qui existe encore. Alors, cette ville, pour ceux qui auront l'occasion de s'y rendre, elle est très intéressante. D'une part, parce qu'il y a la fameuse cathédrale où Copernic fut chanoine, mais surtout, la ville est encore ceinturée comme Carcassonne de remparts. Et dans ces remparts, il y a une tour carrée. Et dans cette tour carrée, se trouve la reconstitution de l'observatoire de Copernic.
Oui, parce qu'on a vu que Copernic avait commencé d'observer avec son professeur en Italie, Mais il continue, il faut qu'il est arrivé.
Voilà, alors est-ce que c'est par passion, est-ce que c'est pour ses horoscopes, peut-être les deux, mais effectivement, dès cette première observation, on a trace de multiples observations de Copernic, et il va les poursuivre donc en Pologne depuis cette tour.
Et donc il y a des documents écrits qui attestent toutes ces observations.
Alors effectivement, on a des sources qui attestent les observations, on a des cahiers, et on va le voir, on a même des manuscrits de Copernic qui relatent donc ces observations.
On a pu retrouver des manuscrits.
Disons que les manuscrits ont été conservés.
D'accord. Donc, mais bon, à part l'astronomie, qu'est-ce qu'il fait dans ce
diocèse de Varmie, il a surtout une fonction, on va dire, d'administrateur. Il s'occupe de beaucoup de choses, parce que c'est un diocèse quand même qui se trouve à la frontière avec les chevaliers teutoniques. Il y a des guerres, il y a des batailles, il y a des conflits. Il s'occupe aussi de monnaie. Comme il a des connaissances mathématiques, il va faire même un traité sur la monnaie. Il va faire toujours ses ordonnances de médecin, parce qu'il est médecin. Il va soigner quelques grands de la région. Il va faire des horoscopes. Et puis il va faire ses fonctions de chanoine, c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie du diocèse.
Donc il administre son diocèse. On revient à l'astronomie maintenant. Donc il a le temps de réfléchir un peu à la conception de l'univers, à la conception du monde.
Alors oui, d'une part parce qu'il est dans une cité quand même intellectuelle, donc il fait des lectures, il va compléter tous ses savoirs, et surtout il a poursuivi ses observations et observé des phénomènes dans le ciel qui posent problème dans la conception d'un cosmos géocentrique, celui de Ptolémée, celui d'Aristote.
Lesquels ?
Alors notamment en 1512, ce qu'il va voir, c'est que Mars est père nocturne. Qu'est-ce que ça veut dire père nocturne ? Ça veut dire que pendant ses observations de l'hiver 1512, il va remarquer d'une part un phénomène très connu, ce sont les rétrogradations de Mars, mais surtout il va remarquer que Mars brille beaucoup plus que les autres fois où il a pu observer cette planète.
Ah oui, c'est vrai que... Alors ça s'explique cette brillance, les amis, parce que Mars est plus près.
Oui, mais cela pose de problème, parce que comment la planète peut se rapprocher de la Terre alors que Mars doit tourner dans des orbites circulaires ?
Bien sûr. Et puis après, on a parlé de la rétrogradation de Mars. Alors les amis, la rétrogradation de Mars, c'est un phénomène que vous pouvez constater. Si vous observez Mars vient au voisinage de la Terre à peu près tous les 2 ans. Vous observez Mars tous les jours et vous notez sa position par rapport aux étoiles fixes qui l'entourent. Et voyez que Mars se déplace petit à petit dans une certaine direction, et puis d'un seul coup, elle repart en arrière. Et elle fait un demi-tour, elle repart en avant. C'est ça la rétrogradation de Mars.
Oui, et le problème pour Copernic, c'est comment expliquer ce phénomène qui était connu depuis l'Antiquité, que Ptolémée a essayé d'expliquer avec tout un système complexe de mini-orbites où la planète tomberait puis serait récupérée par des sortes d'engrenages, enfin, un système assez complexe. Et dans cette époque, justement, de la Renaissance, où on redécouvre des écrits anciens, notamment les écrits d'Aristarque, où peut-être notre système solaire serait possible, alors Copernic s'est peut-être dit un peu comme Archimède, Eureka.
Oui, parce qu'en fait, ça s'explique très bien maintenant, la rétrogradation de Mars, tout simplement, quand Mars tourne autour du Soleil, elle met plus longtemps que la Terre pour faire un tour, et de temps en temps, la Terre va doubler Mars. Et c'est à ce moment-là que se produisent les rétrogradations.
Mais dans ce cas-là, il faut un système solaire où le Soleil est au centre.
Est au centre.
Et ça pose problème. Et ça pose d'autant plus problème pour un chanoine de l'Église catholique, car il remettrait en cause, en affirmant cela, des passages qui, dans l'Ancien Testament, tendraient, par une lecture littérale, à montrer que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre et pas l'inverse.
Ah oui, c'est un dilemme, ça.
C'est un gros dilemme entre la croyance et la connaissance, entre ce qu'il a lu et ce qu'il observe. Pour autant, Copernic va écrire un manuscrit, le Commentariolus, vers 1510, c'est-à-dire assez tôt, où il va déjà énoncer la possibilité d'un système solaire qui ne serait pas centré sur la Terre, mais qui serait centré sur le Soleil.
Mais il a dû avoir une levée de bouclier à l'époque quand il a publié ça, non ?
Pas du tout. Bien au contraire.
Ah oui.
Cet ouvrage manuscrit va être copié, recopié. Il va arriver jusqu'à Rome. Il va arriver jusqu'à Pape. Il va arriver jusqu'à un cardinal. Clément VII, le cardinal Schönberg, vont avoir connaissance et lire ce manuscrit et lire donc que peut-être le système solaire est un système héliocentrique.
Ce qui va à l'encontre de toutes leurs théories.
Mais on est dans l'humanisme, on est dans la Renaissance. Eh bien, le pape et le cardinal vont soutenir Copernic. Et même le cardinal invite Copernic à publier ses travaux.
Est-ce qu'il le fait ?
Ah non. Est-il prudent ? Certains voient dans Copernic un personnage très prudent, voire même timoré. Non, la publication des travaux n'interviendra, selon la légende, que le jour même de la mort de Copernic, où lui aurait été remis le premier exemplaire de son ouvrage. Nous sommes en 1543. Les premiers écrits sont de 1510. Oui. Par contre...
Il a attendu 30 ans avant de publier effectivement son...
En son nom. Par contre, Copernic est un personnage connu, et des étudiants vont venir le rencontrer et travailler avec lui. Notamment Reticus, Georges Reticus, qui est un étudiant allemand, qui va se rendre jusqu'à Frombourg pour travailler avec Copernic. C'est en 1539. Et l'année suivante, Reticus, avec l'accord de Copernic, va publier en 1540 le premier écrit où le système solaire que nous connaissons est énoncé avec des orbites circulaires. Mais la Terre n'est plus le centre du système.
Et ça, c'est vraiment une révolution.
Ah, c'est une révolution totale. Ça bouleverse les cieux et le nom de l'ouvrage de Copernic va s'appeler justement la révolution des orbes célestes.
Une révolution, mais une révolution sur le plan astronomique, mais pas que.
Ah non, surtout pas que, parce que c'est révolutionnaire, parce que Copernic remet en cause les Saintes Écritures. Dans les Saintes Écritures, nous avons des passages, justement, et c'est pour ça que l'Église catholique a adopté le système de Ptolémée, où Dieu aurait arrêté la course du Soleil, où la Terre est énoncée comme étant un astre fixe au centre de l'univers. Et ça, Copernic le remet en cause, c'est ça l'humanisme, c'est ça la Renaissance. C'est que d'un côté, on aura ceux qui relèvent de la foi, et c'est un croyant, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, sa connaissance, en tant que scientifique, il se dit non. Ce que moi je crois, c'est pas ce que la raison me donne à penser.
C'est une révolution pour l'astronomie, pour lui, mais aussi pour l'ensemble de l'humanité alors.
Nous sommes là dans une révolution culturelle majeure, dont nous sommes encore les enfants.
Et oui, parce que si la Terre n'est plus le centre de l'univers, ça veut dire que l'homme n'est plus le centre de l'univers non plus.
L'homme n'est plus le centre de l'univers, et après il va se poser aussi d'autres problèmes que Galilée va évoquer, c'est que la nature est écrite en loi mathématique. Les mathématiques vont permettre d'expliquer le fonctionnement du système solaire.
Il faut dire quand même qu'au départ, le modèle qu'avait, je dirais, mis au point Copernic, il avait quand même des petits défauts.
Ah, le gros défaut, c'est que, effectivement, mathématiquement, les résultats par rapport aux prédictions d'éclipses ou de positions de planètes et d'étoiles étaient beaucoup moins performants. Parce que Copernic, son système, c'est un système circulaire. Les orbites sont circulaires. Or, on le sait maintenant, et c'est Kepler qui va le montrer, les orbites ne sont pas circulaires, mais elliptiques. Et ça, ça va changer tout.
Et là, ça va beaucoup mieux marcher.
Et là, effectivement, ça va beaucoup mieux marcher.
Et ça va valider l'hypothèse qu'on connaît maintenant.
Exactement.
Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Alors, il publie cet ouvrage, finalement, après 30 ans d'hésitation.
Alors, après 30 ans d'hésitation, après quand même le soutien de l'Église catholique, il va donc accepter que cet ouvrage soit publié. Il va notamment mettre en exergue l'autorisation donc, du cardinal Schönberg. Mais... la question qui se pose, c'est pas tellement vis-à-vis de l'Église catholique, parce qu'à l'époque, l'Église catholique, pour ce qui est justement de cette question de la révolution copernicienne, la révolution astronomique, ne pose pas de veto. Le problème vient surtout des protestants. Les écrits de Copernic sont dénoncés par les grands théologiens protestants, Luther en premier.
Oui, parce qu'à l'époque, c'est vrai qu'il y avait aussi cet antagonisme entre les papistes d'un côté, catholiques... de base, et puis la réforme aussi, Luther qui a
voilà,
fait la grande époque des guerres de religion.
Nous sommes dans la période effectivement des guerres de religion, nous sommes dans une période de conflit théologique, et l'Église catholique, autant accepte-t-elle donc ces évolutions de la pensée, autant Luther, Calvin et d'autres vont refuser, mais vraiment avec violence, On a même des témoignages de carnaval protestant où c'est pas le roi carnaval qui est brûlé, ce sont des effigies de Copernic.
Ah oui, d'accord. Oui, oui, effectivement. Alors c'était vraiment, bon, là, on restait dans un immobilisme. Autant sur le plan théologique, on a eu une évolution, autant sur ce plan-là, on restait dans l'immobilisme le plus profond.
Voilà, parce que les saintes écritures l'emportaient sur la raison scientifique.
Oui, une belle époque. Alors ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il publie ce bouquin.
Alors Copernic, et c'est surtout Reticus qui va être à l'origine, va convaincre Nicolas Copernic de mettre en forme, de faire imprimer tout ce qui était déjà contenu dès 1510 dans le Commentariolus, et ça sera donc dans un premier temps l'ouvrage de Reticus, la Narratio Prima, 1540, et en 1543 va donc paraître le premier exemplaire de la révolution des orbes célestes de Copernic, qui est un ouvrage révolutionnaire. Cet ouvrage a été imprimé à plusieurs centaines d'exemplaires, et il en reste encore des exemplaires d'origine.
Qui sont conservés en France,
il y en a. Qui sont conservés en France, il y en a notamment à l'Université de Poitiers. Il y en a aussi à la Bibliothèque nationale de France, et plusieurs bibliothèques universitaires conservent donc cet ouvrage.
Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer?
Qu'est-ce qui va se passer? Le pauvre Copernic va décéder.
Mais ses idées vont continuer.
La révolution qu'il a engagée va se poursuivre après lui, et elle va se poursuivre durant tout ce siècle, et même jusqu'au début du XVIIe siècle.
Oui, c'est une révolution qui est en marche, mais quand même une révolution lente, parce qu'il va falloir longtemps pour que ses idées finissent par convaincre la totalité des astronomes.
D'autant plus qu'il va falloir trouver la raison pour laquelle, justement, ce système, pour les prédictions des positions astronomiques, est beaucoup moins performant que le système de Ptolémée.
Là, il faut attendre 1610 Kepler, quoi.
Il faut attendre, effectivement, le début du XVIIe siècle, avec deux personnages qui vont définitivement imposer le système héliocentrique. C'est Kepler, avec ses lois, et avec surtout son monde, avec des orbites elliptiques. Et c'est surtout, on le sait très bien, en 1609, Galilée, avec ses travaux, et il faut attendre uniquement les années 1610 pour que l'Église catholique condamne officiellement les idées de Copernic, alors que les protestants l'avaient déjà condamné.
Donc, on arrive à une époque, on arrive aussi à la fin de l'émission, les amis. Donc, on peut dire que Copernic a été à l'origine d'une révolution.
Oui.
Copernic a été, le Che Guevara de l'astronomie.
On peut appeler le Che Guevara de l'astronomie. Il a allumé un brasier. Ce brasier va se consumer et il faudra attendre que les travaux de Galilée et de Kepler confirment, d'un point de vue scientifique, ce que Copernic n'a pas pu lui-même confirmé, on va dire, par des lois mathématiques. Et l'Église catholique va mettre du temps, et ce n'est officiellement qu'à l'époque de Jean-Paul II, bien que Copernic va être quand même de moins en moins condamné par l'Église catholique. Dès le XVIIIe siècle, il n'est plus interdit de publier, de parler de Copernic. Mais il faut attendre le pontificat de Jean-Paul II pour que l'Église catholique accepte et Galilée et Copernic.
Officiellement. Bien, Jean-Christophe, merci de nous avoir parlé de Copernic.
Avec plaisir.
Et les amis, à bientôt.
À bientôt.
À la découverte du ciel, une émission proposée et présentée par Alain sur la Voix du Béarn 95.10.
L'élan béarnais vous donne rendez-vous ce samedi 10 février à 20h au Palais des Sports de Pau lors de la réception de Chalon-sur-Saône.